Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Chine proclame une réussite stratégique majeure sur le coronavirus. Une victoire qui a un prix. Laisser filer le déficit budgétaire du pays pour la première fois. Nous rejoindrons dans un instant notre correspondante à Pékin qui nous expliquera tout cela. Pékin qui prépare par ailleurs une loi controversée sur Hong Kong, vous l'entendrez.
Un plan de soutien pour l'automobile, pour l'aéronautique et pour le bâtiment. Bruno Le Maire précise le calendrier dans le bâtiment. Les professionnels regrettent les surcoûts liés aux règles de sécurité sanitaire.
Au moins 35 000 morts auraient pu être évitées aux États-Unis avec un confinement plus précoce. L'étude d'une université de New York a été reprise par l'opposition démocrate ces jours-ci. Explication à suivre.
Et puis nous irons au Brésil où en pleine crise sanitaire, la déforestation a bondi de 170% ces dernières semaines.
Enfin, dans un gros quart d'heure, le billet politique autour du débat sur la gestion de cette crise sanitaire, il semble s'être apaisé depuis quelques jours en France. Frédéric Seyss vous dira pourquoi. Comme un seul homme, ils ont célébré la fin de l'épidémie en Chine. 3000 délégués de l'Assemblée nationale populaire se sont réunis ce matin pour la grand-messe annuelle du régime communiste. Une cérémonie toute à la gloire du président Xi Jinping qui, en 7 ans de pouvoir, fait face à la plus grave crise de son règne. Le régime est accusé d'avoir tardé à réagir face à l'apparition du nouveau coronavirus en fin d'année dernière. Dominique André, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous suivez pour nous le début de cette session du Parlement chinois qui a été, je le rappelle, de façon exceptionnelle repoussée de 2 mois à cause de l'épidémie. Le Premier ministre chinois ce matin a parlé d'une réussite stratégique majeure contre le nouveau coronavirus, mais Dominique, il a surtout souligné que la Chine était confrontée à une tâche immense qui reste à accomplir.
Oui, alors et le signe que l'économie du géant asiatique a été bouleversée durant cette pandémie, c'est que Li Keqiang n'a pas annoncé publiquement un objectif de croissance économique pour l'année 2020 et c'est une première en Chine qui s'explique notamment par la forte incertitude sur l'évolution de l'épidémie, a souligné le Premier ministre chinois. On sait que les usines ont fermé pendant l'épidémie, notamment dans le sud de la Chine. L'économie a été à l'arrêt et les exportations n'ont pas encore repris puisque le coronavirus paralyse encore l'activité économique des autres pays. Les conséquences de ce virus vont donc durer sur l'économie, a prévenu Li Keqiang. La Chine va donc lancer un vaste plan de relance qui est très attendu par une population inquiète de la montée du chômage et du coût de la vie. Le Premier ministre a annoncé l'émission d'un emprunt d'État spécial et d'un plan d'investissement de 481 milliards d'euros pour soutenir notamment l'emploi et les nouvelles technologies. Les dirigeants devront tous donner l'exemple à tous les niveaux, que ce soit le gouvernement central et local. Ils devront se serrer la ceinture, a prévenu Li Keqiang.
Et puis Dominique, notons également lors de cette session parlementaire que la Chine en profite pour proposer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.
Oui, alors cette proposition de loi a été déposée aujourd'hui. Elle va permettre au gouvernement central d'appliquer cette loi dite de sécurité nationale sans passer par le Parlement local hongkongais. Il faut savoir que depuis la rétrocession de Hong Kong par la Grande-Bretagne à la Chine, l'article 23 qui sert de constitution à Hong Kong dans la loi fondamentale prévoit que le territoire autonome soit doté d'une clause qui interdira toutes les activités de sédition et toute intervention étrangère à Hong Kong, mais la clause n'avait jamais été appliquée. Ça provoque donc beaucoup de remous. Un appel à manifester vient d'être lancé à Hong Kong par des militants. Et c'est même une bombe, analyse à Pékin un diplomate occidental.
D'ailleurs, à mi-séance tout à l'heure, j'ajoute que la bourse de Hong Kong plongeait de plus de 4%. Merci beaucoup Dominique. Dominique André, vous étiez en direct ce matin de Pékin. Relancer l'économie dans tous les secteurs touchés, lourde tâche en France également, pour Bercy en ce moment. Le calendrier est fixé, voilà ce que dit le ministre de l'économie dans les colonnes du Figaro. Bruno Le Maire détaille. Après le plan de tourisme annoncé la semaine dernière, des aides pour le secteur de l'automobile sont attendues la semaine prochaine. Elles seront dévoilées par le président de la République. Suivra ensuite l'industrie aéronautique début juin, et puis la tech et le bâtiment le 10 juin prochain pour soutenir des centaines de milliers d'emplois. Car le bâtiment est effectivement en difficulté. Si les chantiers reprennent peu à peu, les charges ont augmenté à cause des nouvelles mesures sanitaires. Les mettre en place a un coût, un surcoût, plus 10 à 25% sur chaque chantier. C'est ce que nous explique Patrick Liébus. Il préside la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
On travaille chez les particuliers, c'est nous qui devons prendre toutes les précautions pour démarrer les chantiers. Ça nous demande d'investir dans des masques, des gels, des équipements nécessaires. Il y a un surcoût parce que quand on se déplace, on ne peut pas être à plusieurs dans les véhicules. Donc à partir du moment où on est seul dans un véhicule, sur un chantier où il y a 3 salariés de la même entreprise qui travaillent, le déplacement c'est avec 3 véhicules. Donc on essaye de voir si on peut trouver des solutions pour éviter d'aller à plusieurs véhicules sur les chantiers. Donc tout ça, ça amène véritablement des surcoûts. Si les prix augmentaient, ça peut avoir des incidences sur des chantiers, c'est-à-dire que des clients pourraient arrêter des contrats ou pas souhaiter qu'on fasse les chantiers, par exemple. Donc nous, ce que l'on dit très clairement, c'est qu'il n'y a pas moyen de compenser d'une façon transitoire cet écart qu'on peut avoir sur un chantier pour éviter qu'on soit obligé de laisser nos salariés au chômage partiel, parce que dans ce cas-là, s'ils devaient travailler et que l'entreprise travaille à perte, l'entreprise va perdre bien entendu un résultat et l'entreprise risque de disparaître dans les mois qui viennent.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi avant donc un plan pour le bâtiment dévoilé le 10 juin au plus tôt. Dans cette interview donnée au Figaro aujourd'hui, Bruno Le Maire évoque également Renault. Le constructeur automobile joue sa survie, dit le ministre, qui précise que le groupe doit tout de même s'engager sur le maintien en France de certaines activités. Bruno Le Maire souligne d'ailleurs qu'il n'a pas encore donné son feu vert pour un prêt à 5 milliards d'euros aux constructeurs en détresse. Pendant ce temps, de nombreux Français profiteront eux d'un week-end prolongé après le jeudi de l'Ascension. Week-end particulier car le déconfinement n'est toujours que partiel. Face à l'affluence de promeneurs, les routes d'accès aux randonnées dans le massif de la Chartreuse en Savoie ont été fermées hier. Idem pour certaines plages du Finistère et du Morbihan en Bretagne et pour les bords de Loire à Tours. À Paris également, il y a du monde en ce week-end de l'Ascension. Il faut dire qu'en zone rouge, les parcs et les jardins restent fermés. Les Parisiens se rabattent donc en masse sur les quelques espaces verts en bord de canal, en bord de Seine ou sur des pelouses comme devant les Invalides. Pelouses évacuées hier, Antoine Marette.
Week-end de l'Ascension, température élevée, déconfinement, tous les ingrédients sont réunis pour inciter les Parisiens à prendre l'air et rechercher le peu de verdure disponible dans la capitale. Et notamment l'esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement. Elle n'est pas fermée, comme les parcs et les jardins. Et dès mercredi soir, elle a été envahie par de nombreux groupes. La police a dans un premier temps tenté de faire respecter les distances de sécurité avant de faire évacuer la pelouse hier matin. Colère de l'adjointe à la mairie de Paris en charge des espaces verts, Pénélope Comites, qui dénonce une situation ubuesque. Le gouvernement interdit les parcs et jardins de la capitale. Du coup, les Parisiens se ruent sur les carrés de pelouse restants, comme l'esplanade des Invalides. Ce qui provoque des concentrations de population. Bref, on est face à une mesure sanitaire qui provoque des risques sanitaires. On l'a vu sur l'esplanade des Invalides ces derniers jours, mais aussi sur les bords du canal Saint-Martin la semaine dernière. Et c'est le credo d'Anne Hidalgo depuis le début du déconfinement. Les mesures du gouvernement sont contre-productives. Il faut rouvrir les parcs et jardins pour laisser respirer les Parisiens, tout en rendant le masque obligatoire. Pour l'instant, le gouvernement oppose une fin de non-recevoir à la maire de Paris. L'éventuelle tenue d'un second tour des municipales en juin prochain pourrait peut-être l'inciter à revoir sa copie.
C'est une promesse maintes fois reportée. La PMA pour toutes les femmes semblait être actée avec le projet de loi bioéthique, mais sa seconde lecture est reportée. Annonce hier de Gilles Legendre, patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Avec la crise du nouveau coronavirus, le calendrier dit-il est trop serré. Il espère maintenant que cette loi puisse être votée avant la fin du quinquennat. Nous évoquions hier la hausse des signalements de violences conjugales lors du confinement. La possible hausse des violences sur les enfants inquiète également. Ce soir, pour le grand reportage, nous nous intéressons aux violences sexuelles sur mineurs, justement. Pour tenter de les prévenir, un nouvel outil de prévention est en cours d'expérimentation dans 5 régions. Il s'agit d'un numéro de téléphone non surtaxé destiné aux personnes attirées sexuellement par les enfants et qui ont peur de passer à l'acte. Ce numéro est géré par les CRIAVS, les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. La présidente de leur fédération, Anne-Hélène Moncani, s'en explique.
On sait qu'il y a des personnes attirées sexuellement par les enfants dans la population générale. On sait que parmi ceux-là, beaucoup ne sont pas passés à l'acte, peut-être qu'ils ne passeront jamais à l'acte, mais pour ceux qui sont à risque de passer à l'acte, il faut absolument essayer d'intervenir à ce moment-là. Et donc, les CRIAPS font déjà ce travail-là. Simplement, l'idée, c'est de donner une visibilité à ce numéro, à ces dispositifs, pour que les personnes concernées par la problématique sachent à qui s'adresser. Moi, je travaille en prison, je suis des auteurs de violences sexuelles, je suis des personnes qui présentent un trouble pédophile ou agressé des mineurs et qui me disent qu'elles avaient très bien repéré qu'elles avaient un problème à cet endroit-là, mais qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser et qu'elles n'ont pas pu être aidées. Bon, ça, c'est catastrophique quand on entend ça.
Et les soins adaptés, qu'est-ce que c'est ?
Bah, du coup, ça dépend de du profil de la personne et de la problématique. Donc, dans les cas de troubles pédophiliques sévères, on va proposer un traitement médicamenteux. Là, il faut que ce soit prescrit par un psychiatre. Et puis, parfois aussi, on peut orienter vers des sexologues parce qu'il y a une problématique sexologique au devant de la scène. Ça peut être un suivi psychothérapeutique. Alors ça, c'est même quelque chose qu'on va proposer à tout le monde. Donc, en fonction du profil de la personne, du moment où elle en est, de la gravité, de la sévérité, on va orienter, on va faire un peu du sur-mesure, en fait, en matière de soins.
Pédophilie, comment protéger les enfants? C'est un grand reportage d'Aurélie Kiefer réalisé par Annie Brault. Il sera diffusé ce soir à partir de 17h, présenté par Sophie Delpont. Et vous pouvez déjà retrouver quelques informations à ce propos sur la page Grand Reportage sur notre site franceculture.fr.
8h11 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal avec cette question à présent. L'Arabie Saoudite profiterait-elle de la crise sanitaire et économique pour investir en Europe?
C'est l'une des inquiétudes des pouvoirs publics européens. En effet, avec la baisse des cours des actions depuis le mois de février, il y a des affaires à faire dans tous les pour tous les investisseurs, les entreprises concurrentes ou les fonds étrangers. Et effectivement, le fonds souverain saoudien a déjà dépensé plus de 7 milliards d'euros ces dernières semaines. Il a pris des participations dans des entreprises européennes et surtout américaines, Marie Viennot.
Facebook, Bank of America, Walt Disney, Pfizer, BP, la liste des achats menés ces dernières semaines par le fonds d'investissement public saoudien ne cesse de s'allonger. Et pourtant, l'Arabie Saoudite a besoin d'argent en ce moment, elle qui se trouve confrontée à ce qu'on nomme l'effet ciseau, plus de dépenses pour faire face au Covid-19 et moins de recettes, les prix du pétrole ayant beaucoup chuté. Si le régime saoudien choisit de dépenser une partie de son épargne colossale dans les entreprises occidentales, c'est parce qu'il a, justifie-t-il, une vision à moyen et long terme. Et qu'il y a bien sûr des affaires à faire en ce moment. Selon le Financial Times, une équipe ad hoc a même été créée pour déceler les secteurs qui rebondiront au moment de la reprise. Et trois d'entre eux ont été identifiés, la santé, la logistique et la technologie. Le fonds d'Abu Dhabi est lui aussi dans cette logique, mais ce qui inquiète le plus les Européens, ce sont les appétits chinois. Ce n'est pas nouveau, mais chute des cours des actions oblige, la commissaire européenne à la concurrence, Margaret Vestager, a encouragé dernièrement les États européens à prendre des participations dans les entreprises pour éviter les rachats, notamment chinois. Un discours impensable avant la pandémie, protectionniste et très défensif, mais adoubé par une dizaine d'États de l'Union européenne qui ont ou vont renforcer pour la France leur contrôle des investissements étrangers dans leur secteur stratégique.
La France a effectivement prévu d'abaisser le seuil de participation étrangère nécessitant une autorisation de 25 à 10%. Le décret est en attente de validation devant le Conseil d'État. Réunion d'urgence prévue ce vendredi pour les ambassadeurs des pays membres de l'OTAN. Ils doivent discuter du retrait américain annoncé du traité Open Sky, ciel ouvert. Les États-Unis accusent en fait la Russie d'avoir violé ce traité qui permet de vérifier les mouvements militaires des pays signataire. Washington se donne 6 mois avant de sortir de ce traité ciel ouvert. Washington, accusé d'avoir tardé à réagir face au nouveau coronavirus. Selon les chercheurs de l'Université de Columbia à New York, entre 35 et 50 000 morts auraient pu être évitées si les mesures de confinement avaient été prises plus tôt, Grégory Phillips.
Le premier décès aux États-Unis lié à cette épidémie de coronavirus remonte au 6 février, une femme de 57 ans dans la région de San Jose, en Californie. Il faudra attendre le 13 mars pour que l'administration proclame une urgence nationale de santé publique et 3 jours de plus pour que le président Trump présente aux Américains les premières recommandations en matière de distanciation sociale. Trop tard, dit aujourd'hui la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi.
La Corée du Sud et les États-Unis ont eu leur première mort du Covid le même jour. Ce rapport dit que si on s'était confiné immédiatement comme les Coréens, on aurait pu sauver plus de 50 000 vies. Et si on avait pris cette mesure une semaine plus tôt que ce que nous avons fait, environ 30 000 personnes ne seraient pas mortes. Donc on doit être intelligent, bon stratège et agir scientifiquement pour y arriver.
Avec son collègue de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, Nancy Pelosi a donc écrit au président Trump pour lui demander dans quelques jours, quand la barre symbolique des 100 000 morts sera franchie, d'ordonner la mise en berne de tous les drapeaux du pays.
C'est ce que nous avons demandé et j'espère que le président va prendre cette décision. Une seule mort nous brise le cœur, mais 100 000 morts, c'est une cicatrice sur le visage de notre nation.
Une autre université, celle du Massachusetts, prévoit que vers la mi-juin, le bilan se sera encore alourdi aux États-Unis avec des projections à 113 ou 120 000 morts. Ces simulations permettent aussi aux scientifiques américains d'alerter contre le risque d'un redémarrage du pays trop rapide.
Ce matin, les États-Unis recensent au moins 94 000 décès. Je précise également que Donald Trump a devancé l'appel des démocrates en annonçant que les drapeaux seront mis en berne dans le pays pour les trois prochains jours. Bilan dramatique également au Brésil. Plus de 20 000 décès ont déjà été recensés, dont la moitié en 11 jours seulement. Le Brésil, où la pandémie n'a pas du tout freiné la déforestation de la forêt amazonienne, bien au contraire. Triste chiffre en cette journée internationale de la biodiversité. 529 km² de forêt ont été détruits ces dernières semaines. C'est 171% de plus que l'année dernière, Jean-Mathieu Albertini.
Pas de repos, encore moins de confinement pour les orpailleurs clandestins, les voleurs de terre et les bûcherons illégaux, les principaux acteurs de la déforestation en Amazonie. Depuis le 11 mai, l'armée a été envoyée sur place pour tenter de ralentir la catastrophe environnementale en cours, mais cela ressemble plus à une coûteuse opération de communication, car un mois de ce déploiement de militaires coûte autant que le budget annuel de l'IBAMA, l'institution chargée de la protection environnementale au Brésil, dont le gouvernement de Jair Bolsonaro s'applique à saper le travail, car le président ne veut pas réduire la déforestation. Bien au contraire, sa politique l'encourage. Du coup, alors que le coronavirus accapare l'attention et que la saison sèche débute, les criminels de la forêt poussent leur avantage. Plus audacieux, ils s'aventurent notamment sur des terres jusque-là relativement bien protégées, comme celles des autochtones. Par exemple, dans l'état de Rondônia, ouest de l'Amazonie, de grands propriétaires terriens sont déjà en train de préparer le terrain pour déclencher d'immenses feux sur la terre des Urus et Wawao.
Jean-Mathieu Albertini depuis le Brésil pour France Culture. Le temps maintenant en France métropolitaine, il restera globalement dominé par la chaleur avec beaucoup moins de soleil toutefois puisque des nuages bas sont présents au nord de la Loire. Ce matin, il fait 20 degrés à Nantes, 22 à Lille et Bordeaux, 24 à Paris, 25 près de la Méditerranée et 26 déjà à Lyon.
Merci Clara Lecoq-Réal.